les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle table ronde qui a eu lieu dans le cadre du Festival du Territoire Durable qui s'est déroulé en septembre dernier. Et pour la thématique d'aujourd'hui, bâtir autrement, rénovation et éco-construction, nous avons eu des intervenants super intéressants. Je leur laisse la place pour cette table ronde passionnante.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Moi, je suis charpentier, entrepreneur, militant, administrateur du réseau français de la construction paille. Et je vais vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est la construction paille aujourd'hui. Le secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est 44% d'énergie consommée, 25% des émissions de gaz à effet de serre, et le logement représente à lui seul 30% du budget des ménages. Alors ça serait vous mentir que vous dire que faire des bâtiments modernes, c'est écologique. Mais dans toutes les manières de construire, il y en a qui sont sans doute plus vertueuses que d'autres. La construction paille en est une. Pourquoi utiliser la paille? D'abord, c'est un matériau high-tech. On s'attend pas à ça quand on parle de construction paille. Il apporte du confort, de la santé, de la sécurité. On a de la protection au feu, on a du confort d'été comme du confort d'hiver, on a du confort phonique. On a de la perméabilité et de l'hygroscopie, on a de la durabilité. C'est ce dernier truc quand même un peu étonnant pour de la construction paille.
Vous pouvez préciser l'hygroscopie ?
Donc l'idée de l'hygroscopie, c'est de gérer cette humidité de l'air qui est importante pour notre bien-être en termes de qualité d'air, donc entre 35% et 65% d'humidité. Et l'hygroscopie du bâtiment, ça fait partie du confort. C'est une des notions qui est à prendre en compte quand on veut parler bâtiment confortable et performant. Économie, 2 en 1, c'est un isolant, la botte de paille, mais c'est aussi un support d'enduit. Donc c'est un outil multifonction. C'est une ressource annuelle, abondante et locale. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sorte du modèle industriel qui va chercher des matériaux de tout autour de la planète. La botte de paille, très clairement, est locale et abondante. Et c'est un isolant qui offre un très bon stockage carbone. Quand un végétal, quelque chose qui vient du vivant, croît, pousse, il stocke du carbone. C'est la photosynthèse, pour faire simple. Et l'idée, c'est que si on le laisse dans son cycle de vie naturel, bien, il va revenir à la terre, composté, brûlé ou autre. Et donc le carbone qu'il a stocké va être rejeté dans l'atmosphère. Une des stratégies qui est proposée pour limiter l'augmentation des gaz à effet de serre, et notamment du CO2, c'est de faire pousser des plantes qui stockent du carbone et de les stocker durablement dans un endroit où on espère qu'elles vont rester sous forme végétale, durable. Et du coup, le bois fait partie de ce projet. Les matériaux biosourcés, et la paille en particulier, permet cela. Quelques caractéristiques techniques. En gros, retenez qu'on a une très bonne performance thermique, qu'on a un déphasage qui est très important, le déphasage y participe au confort d'été. Un déphasage important, c'est ce qui va faire que votre isolant va vous apporter du confort d'été. Réaction au feu, retenez qu'aujourd'hui on a des essais au feu où on a des parois qui sont résistantes, étanches et incombustibles pendant 120 minutes. Il y a tout un tas d'essais qui a été réalisé et qui nous permet de monter en compétence autour de la construction paille. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses en construction paille. C'est pas la problématique feu qui va nous limiter. L'isolant construction paille, il a 130 ans d'histoire. Aux États-Unis, 1886. En fait, du moment qu'on a inventé les botteleuses, il y a John qui s'est dit tiens, et si on empilait ces bottes et qu'on en faisait quelque chose? Et finalement, ce qu'ils avaient peut-être conçu comme une cabane au départ, ben, a traversé les siècles. En 1920, en France, on a la première maison ossature bois. Cette maison est encore occupée, utilisée, elle fonctionne très bien. 1970-2000, il y a tout un tas de babacool écolo qui se sont dit « Tiens, c'est marrant la botte de paille, mais on pourrait peut-être en faire quelque chose. » Et ils ont construit leur propre maison en botte de paille. Ces gens-là se sont dit « C'est quand même super bien, on pourrait même en faire un métier. » Et ils ont créé le réseau français de la construction paille en 2006. Le but était de sortir du monde de l'autoconstruction et d'aller vers la professionnalisation et donc l'assurabilité de ces bâtiments. Il a fallu donc créer un cadre réglementaire. Ce sont les règles professionnelles de la construction paille qui ont été éditées en 2011. Ça rend la construction paille, du point de vue assurantiel, au même niveau qu'une construction en parpaing, une construction en bois. Voilà, depuis, bah, on a pas mal avancé sur le texte. Il y a 3 versions qui ont été éditées. 1500 professionnels qui ont été formés et 7000 bâtiments à peu près qui ont été réalisés. Depuis, la filière est à la pointe. En fait, en France, on est les champions du monde de la construction paille. On traduit les règles professionnelles en anglais, en italien. Alors ça permet pas d'avoir un cadre réglementaire qui est directement utilisable dans ces pays, mais ça donne une inspiration et ça permet à des autoconstructeurs de s'emparer de quelque chose. Et puis ben, on construit des bâtiments, on en construit à peu près 1 000 chaque année en France. Ce sont des bâtiments qui sont une très grande exigence. Alors je vais vous passer de ce qu'est le 4C2, mais en gros c'est la Rolls-Royce du bâtiment performant et écologique. Et finalement, les seuls bâtiments qui ont obtenu ce niveau d'excellence sont des bâtiments en bois, en paille. On sait faire des immeubles. Ici, c'est un R+7. C'est un bailleur social qui a fait le pari de dire, ben, au lieu de chercher à construire un bâtiment le moins cher possible pour le louer au prix plafond, et ben là, il a dit, si je fais un bâtiment qui est confortable, qui fait que mes locataires auront peu de charges, bah ils auront envie de rester. Et peut-être qu'ils me paieront plus longtemps et plus souvent. Donc il a misé moins de turnover, et il a misé que vu que les locataires ont moins de charges, ils ont plus de capacité de payer les loyers. Et ce bâtiment, c'est 100 € par an de charges, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, entretien par appartement. Et il y a 1100 tonnes de paille qui ont été utilisées, soit 10 hectares. C'est une ressource abondante et c'est un grand sujet quand on veut parler de construction et de matériaux biosourcés. Aujourd'hui, pour la filière bois, c'est le seul matériau qui permet de faire l'ensemble des bâtiments neufs français chaque année, avec 6% de la production française en bottes de paille. Bon, honnêtement, ça sert à rien de tout construire en paille. Déjà, il faudrait moins construire. Il y a la moitié du chemin à faire comme ça et l'autre moitié, il faudrait mieux construire. Donc moins construire et mieux construire. Entre les deux, il y a un truc à trouver. Les usages, et puis je vais finir là-dessus. On sait faire habitat individuel, logement collectif, bureau, commerce, crèche, bâtiment éducatif, bâtiment de santé, retraite, bâtiment administratif, bâtiment de loisirs sportifs et culturels, bâtiment industriel et agricole. Ouais, on sait tout faire, quoi. Pour finir, la filière. En gros, c'est des gens super sympas, plutôt bénévoles, qui se sont mis tous ensemble dans un espoir commun de construire en paille le plus possible. Et le but du jeu, c'est de créer un cadre réglementaire dans lequel on peut travailler et s'assurer convenablement. Tout ça, vous l'avez disponible sur le site du réseau français de la construction paille. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller, il y a plein d'informations. Il y a tout un annuaire de professionnels. Vous allez pouvoir trouver des acteurs, fournisseurs de bottes de paille, architectes, concepteurs, constructeurs. Et puis, il y a un recensement des différentes constructions. Voilà pour la construction paille. Et donc, je laisse la parole à Samuel.
Samuel Dugelet, moi, je suis maçon, formateur et un peu d'autres travaux annexes côté de la conception et du dimensionnement. Je vais essayer de vous montrer un petit peu où on en est sur la terre en France. Il y a beaucoup de techniques de construction en terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un matériau qui n'est jamais deux fois le même. Et en fait, tout le jeu de la construction en terre, c'est s'adapter à un matériau qui n'est jamais le même. Donc ça a généré plein de techniques différentes. Je vais aller assez vite, mais je vais vous montrer quand même un peu les principales techniques, voir de quoi on parle. Donc ça, c'est ce qu'on a ici, ce qu'on appelle le pisé. On met un coffrage, on a de la terre qui est... en fait, elle est humide quand vous la prenez dans le sol, et on peut l'écraser, elle se tient. Voilà. Donc on la met dans un coffrage, on tape dessus. On décoffre et ça tient. Voilà, ça s'appelle du pisé. Alors c'est une technique qu'on pratique toujours. En fait, toutes les techniques, on les repratique. Donc, je vous ai fait un petit échantillonnage de ce qui se fait aujourd'hui. Donc on continue de le faire comme ça se faisait avant, voilà, avec des designs un peu plus contemporains. Mais ça reste du pisé traditionnel. Autre mouvement qu'il y a eu depuis aussi une vingtaine, trentaine d'années, c'est de faire des espèces de gros blocs de pisé, les faire au pied du chantier, puis les transporter à la grue, puis les poser. Ce qui permet une autre organisation de chantier, ça permet d'autres chantiers. Et donc ça s'est pas mal développé, ce qu'on appelle le pisé préfabriqué. Une technique contemporaine, donc celle-ci n'a pas de patrimoine, ça date des années 50, c'est de faire des tout petits blocs de pisé, qu'on appelle des blocs de terre comprimés. Mais sur le même process, on prend une presse plutôt qu'un coffrage et un pisoir, et on fait des blocs et on les maçonne. Allez, on change de coin de France, on bascule de l'autre côté du Massif Central, on arrive sur le Grand Ouest, entre la Normandie, la Bretagne, etc. On a presque la même chose, sauf qu'il y a un peu plus d'eau là-bas. Et du coup, dans la terre, dès que vous remettez un peu d'eau, vous avez une espèce de pâte à modeler. Donc il y a certaines terres, quand on met un peu d'eau, ça fait une super pâte à modeler. Et avec cette pâte à modeler, on construit les bâtiments directement, ce qu'on appelle la bauge. Voilà. Donc ça ressemble un peu au pisé qu'on a chez nous, mais techniquement, c'est pas du tout construit pareil. Alors très souvent, la bauge, il y a de la paille, contrairement au pisé. C'est pas systématique, mais c'est très 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 fréquent. De la paille, du genêt, de la ronce, des fibres. On continue d'en faire du traditionnel, soit qui ressemble à du traditionnel, soit des choses beaucoup plus contemporaines, mais sur les mêmes techniques. On va monter, alors qu'on monte par levée, on monte un morceau, puis au bout d'un moment c'est un peu mou, on s'arrête, on laisse sécher, puis on remonte une couche, on laisse sécher, etc. On va jusqu'en haut.
La différence entre pisé et bauge, c'est quoi? C'est la terre
qui... C'est la teneur en eau.
Ah, c'est la teneur en eau.
En fait, ce qui... je suis allé très vite là-dessus, mais en fait, votre source, donc qui est un matériau changeant, il y a des matériaux, vous les prenez, quand vous êtes ici, vous prenez de la terre dans la vallée, généralement, vous la prenez, vous faites une boule, ça se tient, ça se comprime facilement. Voilà. C'est pour ça qu'on les a comprimés. Quand vous arrivez en Bretagne, c'est des terres beaucoup plus fines, il y a moins de cailloux, elles sont plus ce qu'on appelle limono-argileuses. Et en fait, quand vous les prenez, elles sont déjà presque pâte à modeler. Vous remettez un peu d'eau et vous avez de la pâte à modeler. Et du coup, on va la travailler à cet état-là. Et en fait, dans un cas, on va la comprimer. Dans l'autre cas, on va la modeler. Et ça, techniquement, c'est vraiment pas la même chose. Et ça donne à la fin la même chose. Mais c'est vrai que sur la mode de travail, ça génère pas les mêmes choses. Là, on va dans le sud-ouest, Toulouse, tout ça. On est sur une autre technique, c'est de la bauge en petits morceaux. C'est-à-dire qu'on a notre pâte à modeler, on la met dans un moule, on la laisse sécher, ça donne ça. Alors, soit on les passe en cuisson, ça fait ce qu'on appelle les briques de terre cuite. C'est Toulouse rose, c'est la brique de terre cuite. Soit vous les cuisez pas et vous avez des briques de terre cuite.
Vous dites que vous maçonnez, ça veut dire que vous rajoutez du béton, c'est quoi ?
Maçonner, c'est-à-dire qu'on a des éléments qu'on va empiler, et pour qu'ils s'empilent correctement, on met du mortier. Le mortier, c'est de la terre. Comme quand on maçonne des briques cuites ou des parpaings ou n'importe. On met un mortier, ça permet de répartir un peu les charges. Alors ça, il y en a de partout en France, parce que c'est le remplissage d'ossature bois, les maisons à colombage. En fait, traditionnellement, la plupart des maisons à colombage sont remplies avec de la terre. Alors on n'est plus dans les systèmes porteurs, on a mis plus d'eau, on met plein de paille, on est sur un espèce de mélange avec moitié-moitié terre et paille, et on va remplir une ossature avec ce mélange.
Mais en fait, la torche, le torchis, ça vient de torche, et la torche, c'est vraiment cet amas de paille qu'on vient tordre et imbiber de terre et passer autour du tasseau.
Et en complément, d'ailleurs, ça se fait aussi traditionnellement en plancher, ce qu'on appelle les planchers quenouilles, ce qui se refait aussi aujourd'hui, parce que ça fait des planchers acoustiques, etc., donc ça a plein d'intérêt.
Après, sur le mariage des matériaux, on s'interroge là sur le mariage terre-bois, terre-bambou. Il faudra aussi s'interroger sur le mariage béton-acier. Parce que, en fait, contrairement à ça, ça marche bien à l'instant T, puisque on a un matériau qui travaille en compression, l'autre en traction. Mais dans le temps, les coefficients de dilatation ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça travaille différemment. Et puis il y a le phénomène de carbonatation, c'est-à-dire que l'acier, il a beau être enrobé dans le béton, inéluctablement, au bout d'un certain temps, le carbone, le CO2 de l'air va venir le corroder. Et c'est la fin. Donc il y a, vous savez, l'acier se gonfle de volume et éclate le béton. Et le pont de Gênes qui est tombé, c'est vraiment ça.
Le bois, quand il est humide, il gonfle aussi. Il peut faire éclater.
Oui, on monte. Puis, alors, une fois qu'on a mis la terre autour, ce qui se passe, c'est que la terre boit plus que le bois.
En fait, c'est la terre qui va participer à la pérennité du bois.
D'accord. C'est elle qui va aspirer l'humidité, qui va empêcher que le bois, voilà, lui,
ça
régule. La capte.
Elle va sécher beaucoup plus vite. D'accord. Et en cas d'humidification, elle va aspirer l'eau qui a pu être contenue dans le bois. Oui. On le voit dans la construction paille, c'est aussi l'enduit terre qu'on met sur la paille qui va sauver la botte de paille de sa réhumidification.
La filière terre n'est pas construite du tout comme celle de la paille. Il n'y a pas une organisation structurée, il y en a plein qui sont rassemblés dans une confédération. Donc on est 11 structures membres de la Confédération de la Construction Intercrue. C'est nous qui nous chargeons un peu de l'ensemble des problématiques pour que ce matériau puisse répondre au contexte actuel. On a des règles professionnelles comme pour la paille, donc ça le met dans ce qu'on appelle les techniques courantes. Et puis on a ce qu'on appelle des guides de bonne pratique qui sont un texte qui n'est pas validé d'office par les assureurs, qui sont un peu le nœud en fait, comme dans plein de domaines, c'est les assureurs qui donnent l'ordre. Si étrange que ça puisse paraître, parce qu'on se dit un assureur, a priori il connaît rien en bâtiment, c'est quand même eux qui dirigent le bâtiment, et du coup ils n'ont pas validé ces guides, a priori, mais c'est les textes de référence qu'on a pour négocier nos assurances avec nos assureurs, qui fonctionnent pas trop mal, des fois ils ne sont pas suffisants, des fois ils permettent de faire passer les projets.
Donc moi je suis Laurent Dandre, contrôleur technique à la PAV. Le contrôleur technique, sa mission, c'est la prévention des aléas techniques. C'est normalisé. Donc prévention des aléas techniques, ça veut dire qu'on intervient en prévention, donc en amont. C'est on travaille avec les maîtres d'œuvre, avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage aussi, pour voir si leur projet est compatible avec une certaine pérennité, un projet qui soit fiable thermiquement, acoustiquement, et bien sûr la sécurité à incendie, et puis aussi l'accessibilité handicapée, enfin beaucoup de sujets très normalisés. Et donc, justement, comment on fait pour savoir si un projet est bon ? Le contrôleur technique, en fait, il s'appuie sur des référentiels. Et alors, il existe des référentiels, c'est les normes, qu'on a dit. Et en fait, on croit que les normes, c'est obligatoire. Ben non, en vrai, c'est pas obligatoire. Il est des normes qui vont définir des fourchettes, définant le nombre de dents, la longueur du manche, etc. Mais on a le droit de faire des fourchettes autrement. Ben dans le bâtiment, c'est pareil. Il est des normes qui permettent de construire d'une certaine manière en construction paille. Il est des normes qui permettent d'enduire sur les supports en terre crue, et, etc. Donc ce sont des normes qui sont ou pas reconnues par les assureurs. Donc celles qui sont reconnues par les assureurs, c'est en fait les techniques éprouvées. Vous avez entendu parler des DTU, les documents techniques unifiés. Un DTU, c'est juste la compilation des retours d'expérience sur une technique. Et donc le plus vieux DTU, c'est 1954. Donc depuis 1954, on compile les retours d'expérience, les bonnes pratiques, les erreurs, etc., à ne pas commettre, pour justement avoir un document normatif qui nous aide à construire et avoir des chances que ce soit pérenne. On peut faire des bêtises avec des DTU, évidemment, et avoir des beaux sinistres. Alors, quand on veut sortir de ce cadre, on a le droit, on va voir son assureur, et on lui dit, voilà, je voudrais faire une technique non courante. Par exemple, la paille, telle qu'exposée par Maëlle, c'est une technique courante. Mais par contre, il existe des techniques, on en parlait tout à l'heure, la paille porteuse, ça veut dire qu'il y a... On met en fait les bottes de paille les unes sur les autres, on les sangle, il y a certaines techniques, mais ce n'est pas du tout une technique éprouvée, courante, donc reconnue par les assureurs. Et en fait, on voit que, bah, vu l'infinité de matériaux biosourcés ou géosourcés, le monde des techniques courantes ou des techniques éprouvées, il est fini, alors que le monde des techniques non courantes, qu'on appelle innovantes, est lui infini. Voilà. Et nous, contrôleurs techniques, on procède par analyse de risque. Alors c'est sûr que quand on est en technique courante, c'est plus facile, mais on a le droit aussi de réfléchir. Et humainement, c'est vachement plus émancipant et intéressant plutôt que de comparer un projet à un DTU et tout ce qui dépasse, on allume, bah, de se creuser la tête, de discuter, de demander, bah, on va faire un essai, on va faire, se faire sa propre opinion sur la technique, aller voir des chantiers qui ont déjà été réalisés. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de chantiers innovants et justement avant-gardistes pour avoir du retour d'expérience.
Donc, les chantiers innovants, donc finalement, ils ne sont pas assurés, quoi.
J'ai pas dit ça. On va voir son assureur.
Ouais.
Et donc, il y a beaucoup d'assureurs.
Disons que ça ferme l'innovation, finalement, ce système de renom.
Mais si on n'innove pas, on va continuer à faire du béton, du polystyrène et du placoband.
C'est fou, quoi, de mettre des...
Non, c'est normal. Hein. L'assureur, il demande qu'à être rassuré. En tout cas, on peut construire en technique non courante. Et pour ça, c'est ces chantiers-là qui feront avancer justement le schmilblick et la construction vertueuse. Le contrôleur technique, en fait, il va aller poser les questions qui fâchent, pas pour fâcher, mais pour pousser les interlocuteurs à aller vers l'ultra-qualité. En tout cas, vous avez compris qu'il y a besoin... pour faire avancer et puis pour limiter le réchauffement climatique et vivre avec, parce qu'il est déjà là, on a besoin d'aller vers ces matériaux-là, donc biosourcés et géosourcés. Et je finirai juste sur une phrase que j'aime bien de notre ami Victor Hugo, qui disait « Les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain ». Donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Et donc on a besoin de financement pour nous aider.
Des sous.
Ah oui, c'est le plus important.
C'est le plus important, effectivement. Le plus important, non, mais en tout cas, ça contribue à la rénovation énergétique, enfin, en tout cas, de pouvoir financer les projets qui sont sur le territoire. Il y a énormément de dispositifs d'aide. L'idée, c'est pas non plus de rentrer dans le détail de chacun des dispositifs. C'est un peu de vous montrer une vision d'ensemble de tout ce qui peut exister à l'échelon national, mais aussi à l'échelon local. Je représente Archaglo, donc moi je suis chargé de mission au sein du service habitat de Archaglo. Alors le problème, c'est qu'actuellement, quand on pense rénovation énergétique, pour l'usager, c'est tout un tas de sigles, de financeurs. C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. C'est par quel bout commencer. Donc ça a été un des plus gros problèmes de pouvoir commencer à initier un projet, c'est comment l'usager va pouvoir s'inscrire dans un projet, vers qui va-t-il pouvoir s'adresser. Archaglo, il a été mis en place ce qu'on appelle un guichet unique. Un guichet unique, c'est-à-dire que le service habitat de l'aglo rassemble toutes les questions qui sont liées à l'habitat.
Pourquoi Archago s'est inscrit dans cette démarche-là? Parce qu'il y a aussi des spécificités locales au niveau du bâti, du foncier. Comme mes collègues ont voulu parler de la construction paille, de la construction terre, d'autres problématiques existent sur le territoire, notamment les logements vacants. Donc la meilleure des constructions, c'est peut-être de réutiliser ce qui est déjà vacant. Je vous ai mis le nombre, 2300 logements vacants sur l'ensemble du territoire de Archaglo. À savoir qu'il y a à peu près 27 000 logements, donc on a 10% des logements qui sont vacants sur le territoire. Donc le premier levier de rénovation énergétique et de développement, si on veut, plus durable, c'est déjà de se réapproprier ces logements-là qui méritent d'être rénovés. Donc je vous disais aussi, c'est de réduire aussi l'impact de la construction sur le foncier, parce que le foncier, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 5 ans. Donc voilà, c'est une question quand même essentielle. La loi climat-résilience de 2021 là, prend en compte aussi, il y a cette question d'économiser le foncier qui devient plus prégnante. Le contexte réglementaire est ultra changeant. La complexité des aides, la multiplicité des aides fait que l'usager a du mal à s'y retrouver. Et c'est pour ça que chez Archaglo, on a décidé de mettre ce fameux guichet unique où on répertorie tous les appels des usagers pour les renseigner et les informer sur la question de la rénovation énergétique. Petite parenthèse aussi sur tout ce qui concerne l'adaptation du logement, parce qu'il y a aussi une question du vieillissement de la population sur le territoire. Donc on participe aussi à l'accompagnement de ces projets. Et on va accompagner justement les usagers qui vont vouloir s'inscrire dans un projet. Alors accompagner, ça veut dire financièrement, mais aussi, comme je vous disais, sur l'information, le conseil. Ça commence par une information peut-être plus générale et on va jusqu'à une rencontre avec un conseiller technique lors de rendez-vous qu'on a en permanence. Donc comme je vous disais, un guichet unique. Le but, c'est que quand nous recevons un appel d'un porteur de projet, on puisse l'orienter tout de suite vers le bon dispositif. Parce qu'auparavant, c'était ça, c'est le monsieur, la dame appelée Lana qui l'orientait sur un opérateur, qui l'orientait sur... Et au final, le projet ne sortait pas. Donc nous, le rôle, c'est vraiment que, dès les premiers instants, le premier appel, on arrive déjà à cibler à peu près sur quel dispositif on va pouvoir orienter la personne. Toujours cette question d'information et d'échange au maximum sur le projet, et si la personne... n'est pas certaine de son système de chauffage qu'elle veut renouveler, sur le type d'isolant qu'elle veut installer, parce que elle se pose des questions, elle veut peut-être installer du biosourcé justement, mais elle a des contraintes techniques, sa maison est empisée, il y a besoin d'un conseil quand même bien particulier pour pas faire n'importe quoi. Je tiens à préciser quand même que cet accompagnement-là est totalement pris en charge et totalement gratuit, vraiment peut-être à d'autres opérateurs. Et on peut aller jusqu'à, selon les projets bien entendu, on peut aller jusqu'à une visite du logement par un technicien spécialisé qui fait un rapport, qui fait différents scénarios de travaux, des scénarios plus ou moins ambitieux en fonction de la volonté de la personne, mais l'intérêt c'est aussi que la personne puisse arriver jusqu'à son projet. Pas lui faire peut-être un projet trop ambitieux parce que aussi financièrement il faut pouvoir aussi assurer derrière. Mais en tout cas, voilà, un projet qui correspond à la personne. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de confort. Voilà, il faut que ça corresponde aux besoins de la personne. Et aussi d'essayer de trouver le meilleur biais et les meilleures solutions de financement, parce qu'on peut combiner plusieurs sources de financement. Les dispositifs principaux qui sont en œuvre à l'échelle nationale pour l'instant, c'est les dispositifs de MaPrimeRénov et MaPrimeRénov Sérénité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ces systèmes-là. Donc les catégories de travaux concernées par toutes les aides, c'est donc tous les travaux d'amélioration énergétique, les rénovations globales. Donc il y a tout ce type d'aides qui sont mobilisables. Un autre type d'aide, les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie. Ça, ce sont des aides proposées par les fournisseurs d'énergie, les vendeurs d'énergie en France. Donc là, les aides sont variables en fonction des fournisseurs. C'est un petit peu comme la bourse. Il y a des montants moyens, on va dire, mais voilà, vous pouvez avoir un opérateur qui vous propose pour certains postes de travaux 200 euros et celui d'à côté qui va vous proposer 300 euros. On n'aura pas d'un changement de 1 à 2. Mais voilà, ces sociétés-là, c'est un peu la taxe carbone des entreprises qui sont forcées de participer à l'effort national et à la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'était plutôt national. Et d'un point de vue local, l'agglomération participe aussi financièrement pour les projets qui sont accompagnés. On a différents types d'aides, ça va dépendre du projet. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire le point sur votre projet. Si on prend des aides, on peut jusqu'à 5000 euros d'aide. On participe aussi financièrement sur l'achat de certains logements en centre-bourg, donc en centre ancien. Donc ça, c'est toujours dans un but de lutter contre la vacance des logements et dans un souci de revitalisation des centres. Il y a aussi d'autres aides qui existent pour financer, pour finir de financer, parce que c'est quand même des projets qui dit bouquet de travaux, dit quand même des projets à certains niveaux. Vous avez les éco-prêts à taux zéro qui vous permettent de financer le reste à charge du ménage. Sur les travaux de rénovation, vous avez la TVA réduite à 5,5. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis vous avez aussi les compléments régionales et départementales. Alors j'ai mis que la Drôme parce que l'Ardèche ne participe pas financièrement sur les projets de rénovation. Alors pour finir, je vais juste mettre un petit exemple d'un projet qu'on a suivi qui est sorti, qui s'est terminé au mois de juin, sur Saint-Donat. Un ménage avec deux enfants qui était en catégorie très modeste, donc avec des revenus relativement faible on va dire, et qui a décidé de faire une rénovation globale de sa maison. Donc c'est un vrai projet, c'est un vrai projet qu'on a suivi. Ce couple-là a engagé 7 postes de travaux, ils ont changé le système de chauffage, ils ont isolé murs, combles, le plancher bas, ils ont remplacé toutes les menuiseries, ils ont changé la ventilation et ils ont fait un changement sur le système d'eau chaude sanitaire. Pour information, ils ont tout isolé en laine de bois, sauf le plancher bas qui était en laine de verre. Et vous voyez, 23 000 euros de travaux, 22 000 euros d'aide. Donc 1 000 euros de reste à charge sur un projet qui a permis de faire 78% de gains énergétiques, de passer d'une étiquette F à une étiquette B. Donc on est arrivé quand même sur un projet qui est quand même relativement sympa, je dirais. Et la question qu'on nous pose souvent sur les délais, vous voyez, bon, ça prend un petit peu de temps, mais la visite, entre l'appel de la personne, la visite et le solde du dossier, c'est passé 6 mois. Et vous voyez, en 6 mois, on peut faire un projet de rénovation globale sur une maison. Avec tout un tas d'aides, j'ai dit 22 000 euros d'aide, et les aides de l'ANA, 16 000 euros, et Archaglo, 5 000 euros. Donc on arrive quand même sur des financements qui peuvent être très intéressants. Et là, je vous rappelle tous les lieux de permanence qu'on a sur l'ensemble du territoire, parce qu'on couvre tout le territoire, donc on a des permanences aussi bien sur Saint-Félicien, que sur Saint-Donat, sur Tournon, sur Mauve. Voilà, il y a quand même matière à rencontrer du monde assez facilement.
C'était les éco-ateliers, proposés par Audrey.